Le privilège du romancier. Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit. C'est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. Christian Bobin. Posé devant moi, un bic cristal à 30 centimes et un bloc-notes à carreaux CIS. Mes seules armes depuis toujours. Je suis assis dans la bibliothèque du lycée, à ma place de l'époque, dans le petit renfoncement dont la vue donne sur la cour pavée et la fontaine recouverte de lierre. La salle d'études baigne dans l'odeur de cire et de cierge fondu. Les vieux Lagarde et Michard prennent la poussière sur les étagères derrière moi. Après le départ à la retraite de Zélie, la direction du lycée a décidé de donner mon nom au bâtiment accueillant le club théâtre. J'ai décliné cette proposition et avancé à la place celui de Jean-Christophe Graff. Mais j'ai accepté d'écrire et de prononcer un petit discours d'inauguration devant les étudiants. J'ôte le capuchon du stylo et je commence à prendre des notes. Toute ma vie, je n'ai fait que ça, écrire. Dans un double mouvement contraire, construire des murs et ouvrir des portes. Des murs pour endiguer la cruauté ravageuse de la réalité. Des portes pour s'échapper dans un monde parallèle. La réalité, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être. Ça ne marche pas à tous les coups, mais parfois, pendant quelques heures, la fiction est vraiment plus forte que la réalité. C'est peut-être le privilège des artistes en général, et des romanciers en particulier, être quelquefois capable de gagner leur combat contre le réel. J'écris, je rature, je réécris. Les pages noircies s'accumulent. Peu à peu, une autre histoire prend corps. Une histoire alternative, pour expliquer ce qui s'est réellement passé ce fameux soir de 1992, dans la nuit du 19 au 20 décembre. Imaginez. La neige. Le froid. La nuit. Imaginez ce moment précis où Francis est retourné dans la chambre de Vinca avec l'intention de l'emmurer. Il s'est approché du corps qui reposait dans la chaleur du lit. Il a soulevé la jeune fille et, avec sa force de taureau, il l'a portée comme on porte une princesse. Mais pas pour l'emmener dans un château merveilleux. Il l'a portée jusqu'à un chantier de construction noir et glacé qui sentait le béton et transpirait l'humidité. Il était seul, uniquement escorté de ses démons et de ses fantômes. Il avait renvoyé Ahmed chez lui. Il a posé le corps de Vinca sur une bâche à même le sol et a allumé toutes les lampes de chantier. Il était hypnotisé par le corps de la jeune fille et n'arrivait pas à se dire qu'il allait couler du béton sur elle. Quelques heures plus tôt, il s'était débarrassé du corps d'Alexis Clément sans se poser de questions. Mais là, ce n'était pas pareil. Là, c'était trop dur. Il l'a regardée longtemps. Puis il s'est approché d'elle pour recouvrir son corps d'une couverture, comme si elle pouvait encore prendre froid. Et pendant un moment, alors que des larmes coulaient sur ses joues, il s'est imaginé qu'elle vivait encore. L'illusion était tellement forte qu'il lui semblait voir sa poitrine se soulever légèrement. Jusqu'au moment où il a compris que Vinca respirait vraiment. Bordel de Dieu! Comment était-ce possible? Annabelle lui avait porté un coup sur la tête avec une statue en fonte. La petite avait dans le ventre de l'alcool et des cachetons. Certes, les anxiolytiques ralentissaient le rythme cardiaque, mais lui-même, tout à l'heure, n'avait senti aucun pouls lorsqu'il l'avait examinée. Il posa son oreille sur la poitrine de la jeune fille et il entendit son cœur. Et c'était la plus belle musique qu'il ait jamais entendue. Francis n'a pas hésité. Il n'allait pas porter un coup de pelle sur la gamine pour finir le travail. Ça, il ne le pouvait pas. Il a transporté Vinca dans son 4x4 et l'a couché sur les sièges arrière. Puis il a roulé en direction du massif du Mercantour, où il avait une cabane de chasse. Une sorte de petit chalet dans lequel il passait parfois la nuit lorsqu'il allait tirer le chamois du côté d'Entrône. Habituellement, il y était en 2 heures, mais à cause des conditions de circulation, le trajet lui a pris plus du double. L'aube se levait quand il est arrivé à la frontière des Alpes de Haute-Provence. Il a installé Vinca sur le canapé du pavillon de chasse, allumé un feu dans la cheminée, rentré une grande provision de bois et fait bouillir de l'eau. Il a beaucoup réfléchi en conduisant et il a pris sa décision. Si la petite se réveillait, il l'aiderait à disparaître et à repartir à zéro. Un autre pays, une autre identité, une autre vie. Comme dans un programme de protection des témoins. Sauf qu'il n'allait pas demander de l'aide à une agence gouvernementale. Il a décidé d'aller frapper à la porte de la 'Ndrangheta. Les mafieux calabrais lui tournaient autour depuis quelque temps pour blanchir leur argent. Il allait leur demander d'exfiltrer Vinca. Il savait qu'il mettait le doigt dans un engrenage démoniaque. Mais il aimait cette idée que la vie ne vous envoyait jamais que des épreuves que vous pouviez supporter. Le bien amène le mal. Le mal amène le bien. L'histoire de sa vie. Francis s'est préparé un gros pot de café. S'est assis sur la chaise et il a attendu. Et Vinca s'est réveillé. Puis les jours, les mois et les années ont passé. Quelque part, une jeune femme qui avait laissé derrière elle un territoire carbonisé revenait à l'existence, comme si elle naissait une seconde fois. Quelque part donc, Vinca vivait. Voilà ma version de l'histoire. Elle repose sur tous les éléments et les indices que j'ai pu glaner lors de mon enquête. Les liens présumés de Francis avec la mafia, les virements d'argent qui repartaient vers New York, ma rencontre fortuite avec Vinca à Manhattan. J'aime à penser que cette histoire est vraie, même s'il n'y a peut-être qu'une seule chance sur 1000 que les choses se soient passées ainsi. En l'état actuel de l'avancée de l'enquête, personne ne pourrait réfuter totalement cette version. C'est ma contribution de romancier à l'affaire Vinca Rockwell. Je termine mon texte, je range mes affaires et je quitte la bibliothèque. Dehors, porté par le mistral, des feuilles jaunies virevoltent dans le soleil d'automne. Je me sens bien. La vie me fait moins peur. Vous pouvez m'attaquer, vous pouvez me juger, vous pouvez me ruiner. J'aurai toujours à portée de main un vieux bic mâchouillé et un bloc-notes froissé. Mes seules armes, à la fois dérisoires et puissantes. Les seules sur lesquelles j'ai toujours pu compter. Pour m'aider à traverser la nuit.